France Inter.
Aujourd'hui, la migration des insectes racontée par...
Hervé Thomas, entomologiste depuis une quarantaine d'années, vice-président de la Société linnéenne de Bordeaux et professeur de sciences naturelles.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Chaque automne se déroule un spectacle fascinant dans le ciel d'Amérique du Nord. Des millions de papillons monarques aux ailes oranges et noires s'engagent dans un voyage épique de plus de 4000 km reliant le nord des États-Unis et le Canada aux forêts montagneuses du Mexique. Le voyage de ces lépidoptères commence à la fin de l'été. Portés par les vents d'altitude, les monarques entament leur descente vers le sud, chaque halte leur permettant de se nourrir du nectar des fleurs et de reconstituer leurs réserves d'énergie pour poursuivre leur périple. Après des semaines de vol, les papillons monarques atteignent enfin leur refuge, les forêts de pins et d'oyamel des montagnes du Mexique, ces conifères à la taille imposante. Et là, dans une atmosphère fraîche et humide, ils s'agrègent par millions, formant des grappes vibrantes sur les branches en attendant la fin de l'hiver. L'arrivée des papillons coïncide avec les festivités mexicaines du Día de los Muertos, le jour des morts. Dans la culture mexicaine, ces insectes sont associés aux âmes des proches disparus. Ce voyage extraordinaire est rendu possible grâce à une génération unique, la génération migratrice. Contrairement aux autres monarques qui vivent à peine 6 semaines, cette génération peut vivre jusqu'à 9 mois. Dotée d'une endurance exceptionnelle, ces papillons sont capables de parcourir jusqu'à 120 km par jour. Et pourtant, aucun de ces individus migrateurs n'a jamais vu les sites d'hivernage où ils se rendent. Leur trajet inné est inscrit dans leur gène. Au printemps, un autre miracle se poursuit. Les monarques entreprennent leur retour vers le nord. Ce trajet effectué en plusieurs générations permettra à leurs descendants de repeupler les vastes prairies d'Amérique du Nord où le cycle recommence. Mais ce phénomène migratoire fascinant, autrefois si abondant, est aujourd'hui en péril. La population de monarques a en effet chuté de façon alarmante. Le changement climatique, avec ses épisodes de sécheresse et ses températures extrêmes, perturbe les habitats et les routes migratoires de ces papillons. L'utilisation massive de pesticides détruit leurs sources de nourriture essentielles à leur survie. Et les experts alertent également sur la réduction drastique des zones d'hivernage au Mexique, où la déforestation illégale grignote les forêts abritant les monarques. Si les migrations des grands mammifères sont bien connues, celles des insectes restent largement méconnues, et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Hervé Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On connaît bien ces migrations massives de grands herbivores, hein, comme les gnous en Afrique, les antilopes, les caribous en Amérique du Nord, mais aussi celles des baleines à bosse, des saumons, des anguilles, on en parlait ici récemment. Mais on connaît beaucoup moins les migrations des insectes, qui représentent pourtant un phénomène massif.
Eh oui. C'est assez logique quand on y réfléchit. Les insectes, ils sont partout, ils sont extrêmement nombreux, mais ils sont petits. Et l'image qu'ils ont n'est pas celle qu'ont par exemple les oiseaux. C'est vrai que tout le monde a pu constater, et depuis très longtemps, même une personne qui n'est pas du tout spécialisée dans la biologie, constate le retour chaque année des grues, des hirondelles, etc. Ce sont des animaux qui sont grands, que l'on voit facilement et qui ont une bonne image. Alors que les insectes, souvent, c'est assez difficile de se rendre compte s'ils migrent ou s'ils ne migrent pas. Pour tout un tas de raisons que je vais essayer d'évoquer ici avec vous.
C'est difficile à observer, tout simplement.
C'est difficile à observer et c'est assez lié au fait que vous venez d'aborder avec le petit rappel sur les monarques. En général, un insecte, ça ne vit pas longtemps. Le cycle de vie est court et donc on peut avoir des phénomènes migratoires qui sont dissimulés tout simplement par le fait que lorsque vous avez un cycle de vie annuel et que, par exemple, les adultes réapparaissent chaque année au même moment, que ce soit une migration ou pas, ça ne fera pas de différence. On ne pourra pas voir la différence entre des individus qui ont migré pour revenir à un endroit donné et des individus qui simplement terminent leur développement et réapparaissent à partir des œufs qui ont été pondus l'année d'avant. Et donc, c'est très difficile et pendant longtemps, ça a été très mal connu, ça l'est encore. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est probablement massif, comme vous l'avez dit, ça concerne, plus on s'y intéresse, plus on se rend compte que ça concerne beaucoup d'espèces, pas seulement celles qui sont connues depuis très longtemps comme les monarques, mais c'est encore probablement très sous-évalué.
Dans l'ensemble des migrations animales, qu'est-ce que ça représente?
C'est certainement colossal. Et là, je vais être assez évasif parce que c'est absolument pas quantifiable à l'heure actuelle. Les insectes, il faut comprendre qu'ils sont, mal connus pour deux raisons. Ils sont très nombreux, beaucoup plus nombreux que les oiseaux. Pour vous donner une idée, il y a 330 espèces d'oiseaux en France. Il y a entre 40 000 et 50 000 espèces d'insectes.
Et à l'échelle mondiale, combien d'espèces d'insectes?
Et à l'échelle mondiale, on est au-dessus du million d'espèces décrites pour 9 000 oiseaux. Et le nombre de personnes qui s'y intéressent, et à l'opposé, il est beaucoup plus faible.
Les gens comme vous, les entomologistes.
En gros, on a un entomologiste pour 100 ornithologues. Ah oui. C'est à peu près ça la proportion. Donc,
avec beaucoup plus d'espèces à
étudier. Et avec beaucoup plus d'espèces. Ce qui fait qu'en fait, ça reste très mystérieux. Mais c'est ça qui est excitant aussi.
Les papillons monarques, on peut y revenir un instant. Ouais. Hervé Thomas, ces insectes qui sont capables, comme on vient de le voir, de parcourir de très grandes distances. On parle de plus de 4000 km. On va écouter d'ailleurs l'extrait d'un reportage de France 2 au Mexique en 2021.
Regardez ces grappes. On dirait des feuilles. Ce sont des millions de papillons. Images insolites de ce migrateur venu du Canada.
Les premières, deuxième et troisième générations ne vivent que 4 à 5 semaines pendant la migration. Alors que la quatrième et dernière qui arrive ici vit entre 8 et 9 mois. C'est un mystère. On ne sait pas pourquoi cela résiste si longtemps.
Voilà cette migration des papillons qui pose beaucoup de questions autour de cette capacité donc à effectuer des milliers de kilomètres entre deux régions géographiques qui sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est un comportement inscrit vraiment dans les gènes des insectes.
Et oui, là, fatalement, on pouvait se poser la question légitimement quand on a des exemples d'animaux pérennes qui vivent plusieurs années, qui naissent dans un endroit donné, qui partent, et dont on peut se demander s'ils ont mémorisé l'endroit où ils sont nés pour retrouver, par exemple, le site où ils sont nés quelques années plus tard. Mais dans des cas comme celui-là, qui est un cas très général d'ailleurs chez les insectes, on a affaire à des individus qui n'ont jamais vu l'endroit d'où ils viennent. Donc il y a forcément quelque chose de génétique. Et ça reste, et c'est ça qui est magnifique, et ça reste totalement mystérieux. C'est très très mal connu. Qu'est-ce qui fait que ces papillons qui n'y sont jamais allés savent qu'il faut partir? Alors ça, bon, on sait maintenant, on y reviendra sans doute, comment ils savent à quel moment il faut partir. On commence un peu aussi à comprendre pourquoi ils choisissent tel ou tel trajet, à quel moment ils vont choisir un itinéraire plutôt qu'un autre. Mais par contre, pour connaître à l'avance l'endroit où il faut aller, la destination, alors là, ça reste totalement inconnu. En tout cas de moi, mais je pense que ça reste inconnu. Ouais.
La durée de vie d'un papillon monarque, c'est de combien à peu près, Hervé Thomas?
Alors, les monarques ne vivent pas longtemps. S'ils sont à l'image de la plupart des papillons, c'est en gros des animaux qui vont vivre quelques mois. Donc, vous avez vu qu'il y a une différence entre ceux qui font faire la migration dans le sens sud-nord, qui vont vivre beaucoup moins longtemps, qui vont vivre sur 2 mois, 3 mois maximum, qui vont mourir en laissant place à la génération d'après, et de proche en proche, ils vont remonter comme ça jusqu'au nord de leur zone géographique, le Canada, le nord des États-Unis. Alors que, effectivement, comme vous l'avez dit, ceux qui vont faire le trajet dans le sens inverse vont vivre beaucoup plus longtemps. Et ce sont eux qui font donc le plus gros effort énergétique. Et ils sont capables de le faire. Alors là, par contre, ce que l'on peut dire, c'est aussi une différence majeure avec l'oiseau. Je prendrai souvent des parallèles avec l'oiseau, parce que c'est mieux connu. Les oiseaux sont des machines à manger, ils ont un métabolisme, un fonctionnement qui est très très coûteux en énergie, donc il leur faut absolument beaucoup de nourriture, ou beaucoup de réserves. Les insectes, c'est fantastique, ils utilisent très très peu d'énergie pour effectuer de très grandes migrations. Et donc ces papillons qui peuvent faire 100-120 km par jour, en fait, utilisent très très peu d'énergie, ils sont très très économes.
Mais à quoi ils fonctionnent justement?
Alors à quoi ils fonctionnent? Ils s'alimentent en cours de route, ils vont butiner. Le nectar, c'est assez riche, il y a du sucre. Et le papillon lui-même consomme peu. Un insecte, globalement, consomme peu. Il n'a pas, je reprends l'exemple de l'oiseau, donc il a un vol qui est un vol en grande partie plané, donc il va profiter des courants aériens, il va profiter des vents pour économiser son énergie. Et tout simplement, une petite chose qu'on oublie souvent, les insectes ne sont pas chauffés de l'intérieur. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne peuvent pas souvent subsister pendant l'hiver quand les climats ne conviennent plus.
Et que donc ils vont migrer.
Alors que les oiseaux sont, comme les mammifères, hein, chauffés de l'intérieur. Ils ont cette fameuse température interne constante, mais qui est très 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 coûteuse en énergie.
Hein, donc... Hervé Thomas, on peut imaginer qu'il y a des escales également pour se nourrir en vol pour ces papillons.
Il y a des escales. Hein,
Tout le groupe va faire escale en même temps ou...
Tout le groupe va faire escale en même temps, ils se suivent. Hein. Ouais. Peut-être cet effet un peu grégaire que l'on observe souvent et qui d'ailleurs a fait que ces insectes ont attiré l'attention, parce que ceux qui ne migrent pas de manière grégaire sont probablement en grande partie méconnus. Et ouais. Il doit y avoir des migrations qui se font sans qu'on en ait conscience. Ouais. Mais ils vont être en groupe, c'est probablement une sûreté aussi hein, ouais. Vis-à-vis des prédateurs. L'effet de groupe est toujours dissuasif hein, parce qu'il y a des prédateurs qui les suivent.
Hein. Bien sûr, et qui s'en nourrissent.
Voilà,
ça fait partie d'une chaîne aussi.
Le monarque est quand même bien protégé. Hein. Il est bien connu aussi parce qu'il est très beau. C'est un papier qui a de très belles couleurs, très vives. Et comme c'est assez connu, ce sont des couleurs qui annoncent un danger. Ils sont toxiques, ils sont très toxiques. Alors, certains animaux les mangent, mais pas tant que ça. Ils sont très toxiques en réutilisant en partie les toxines des plantes dont ils se nourrissent.
D'autres insectes, comme les sirfes, par exemple, alors eux font l'objet de repas, hein, justement pour d'autres animaux. Et l'exemple est intéressant parce qu'il concerne aussi la France. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous dire ce que c'est que le sirfe ?
Oui. Alors, les sirfes sont de mieux en mieux connus. C'est la deuxième plus grande famille de mouches qui peut exister en France. On en connaît entre 400 et 500 espèces.
Ah oui.
C'est un gros groupe, hein, les sirfes et sa famille des sirfidés. Alors, ce sont des mouches que tout le monde connaît, en fait, parce que ce sont ces fameuses mouches, souvent assez colorées, qui imitent les guêpes, les abeilles ou les bourdons, et qui font du surplace. On les voit tous dans les taches de soleil, on les voit quelquefois. Ils font du surplace, parfaitement, hein, un vol stationnaire. Ils peuvent même voler en arrière. Ça fait partie des plus remarquables voiliers du règne animal.
Hein. Ils ont la marche arrière.
Ils ont la marche arrière dans certains d'entre eux. C'est absolument. Ils font des prouesses.
Et ce qui est incroyable, c'est que quand on les voit justement faire du surplace, comme ça, dans nos jardins, on est loin d'imaginer que ces sirfes ont parcouru des milliers de kilomètres.
C'est ça. Alors, le vol des mouches est très puissant, hein. Ce sont d'excellents voiliers, et on a découvert un peu fortuitement hein, le déplacement, parce que c'était totalement insoupçonné. C'est effectivement une histoire qui remonte aux années 50, hein, qui est connue. Ce sont des ornithologues, alors on en revient, hein, les oiseaux sont toujours là, hein. Les naturalistes travaillent ensemble. Les ornithologues, ce sont des ornithologues qui avaient observé ça dans les Pyrénées.
David et Elisabeth Lake.
Voilà. Qui ont observé ça dans les Pyrénées, hein, sur un col. Alors, les ornithologues, c'est bien connu, se postent sur les cols à différents endroits. Pourquoi ils vont sur les cols ? Parce que, justement, quand on étudie les migrations, on cherche les entonnoirs à migration, les endroits où il y a des espaces un peu restreints et où on est sûr de voir beaucoup d'individus. Donc, c'est souvent des bords de mer, des cols de montagne, etc. Et ces ornithologues avaient constaté un nombre assez hallucinant, puisqu'ils disaient qu'il y avait plusieurs milliers, 2000, 3000 mouches qui passaient sur un mètre et par minute. Donc, ça fait quand même beaucoup.
Oui. Donc ça, c'était au col du Bouchareau dans les Hautes-Pyrénées.
C'est
hein.
ça, c'était le col du Bouchareau dans les Hautes-Pyrénées. Et ça a un petit peu titillé l'intérêt d'entomologistes d'une université anglaise qui se sont intéressés de près à ce problème, William Hawkes en l'occurrence, et qui est venu constater plusieurs années après,
plusieurs décennies après,
la véracité du phénomène, et qui a d'ailleurs retrouvé cette quantification. Hein,
donc il a bien observé que dans ce même col, il est allé au même endroit ou pas ?
Il est allé au même endroit et il a constaté, ce qui est assez amusant, qu'il y avait plusieurs espèces d'insectes qui migraient, pas mal, hein, pas mal d'espèces, mais à 90%, il s'agissait d'une espèce qui était celle qu'avaient vu les ornithologues, le sirfe, celui qu'on surnomme le sirfe à ceinture, Sirfus balteatus pour les intimes, et qui est de loin le plus abondant.
Donc les mouches peuvent aussi faire énormément de kilomètres.
Et oui.
Et il faut absolument avoir conscience de tout cela, et c'est l'objet de cette émission cet après-midi avec vous, Hervé Thomas, sur la migration des insectes.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Nous pouvons vous montrer au laboratoire un élevage d'une punaise prédatrice du doryphore. Cette punaise est originaire d'Amérique du Nord. Elle a été récemment introduite en Europe et elle est multipliée dans plusieurs laboratoires européens afin de vérifier ses possibilités d'acclimatation sous les différents climats de France, d'Allemagne ou d'Europe méridionale.
Les archives de la radio-télévision française en 1961, la voix d'un homme, Pierre Grison, professeur Grison, responsable du laboratoire de lutte biologique à l'Institut national de la recherche agronomique. Hervé Thomas, est-ce que les humains, vous qui êtes notre invité pour parler des migrations, sont aussi responsables de déplacements d'insectes qui, sans eux, bien, n'auraient jamais changé de région ?
Et oui, surtout des déplacements intercontinentaux qui dépassent les possibilités physiques de beaucoup d'espèces. Et là, c'est assez documenté parce que ça s'est quelquefois mal passé. Donc, alors, il faut savoir que globalement, ça se passe le plus souvent assez bien. On n'en entendra pas parler, mais on entend dans l'extrait là l'histoire du doryphore. Et de toute façon, on sait que l'homme est intervenu plusieurs fois, volontairement ou involontairement, pour déplacer des espèces. Alors là, on entend dans le reportage...
Donc là, c'était la punaise au départ,
c'est ça ? Là, c'est l'idée de faire de la lutte biologique contre le doryphore, donc l'idée de trouver un prédateur qui vit à l'endroit, dans le pays d'origine d'une espèce qui a été importée accidentellement, ouais, pour voir si on pourrait contribuer à
une lutte biologique.
Voilà, c'est une lutte biologique. L'idée, elle est simple. Quand un nouvel arrivant arrive dans un pays dont il n'est pas originaire, il n'a pas de prédateur, ouais, et donc il faut pouvoir rééquilibrer les populations. Ce qui est très dangereux d'ailleurs, l'idée d'introduire, c'est que c'est un peu quelque chose qui date, on se méfie beaucoup de cette approche. On a par exemple un exemple assez récent, c'est la coccinelle asiatique, hein, qui est une espèce qui a été introduite en France au début des années 2000 pour de la lutte biologique, puisque les coccinelles asiatiques sont très grosses, très voraces, donc elles mangent plus de pucerons. Et l'idée, c'était de les utiliser pour avoir une meilleure efficacité dans la lutte contre les pucerons. Mmh. Et cette coccinelle s'est très très rapidement acclimatée. Mais malheureusement, elle n'a pas fait que s'acclimater. Parce que s'acclimater, c'est pas très gênant. Hein. Il y a énormément d'espèces qui s'acclimatent, des végétaux, des insectes, hein, qui ont été importés par l'homme. S'acclimater, ce n'est pas être invasif ou envahissant dans la plupart des cas. Mais dans un cas sur dix, ça peut le devenir. Et la coccinelle asiatique, le problème, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de manger les pucerons. Elle a mangé très efficacement les pucerons, mais elle a aussi grignoté les larves de coccinelles autochtones, donc nos coccinelles à nous. Et ce faisant, elle a quand même contribué à un petit peu modifier les écosystèmes. Et elle a tapé sur les punaises autochtones. Et dès qu'on commence à perturber un peu l'écosystème, c'est pas très bon.
Ouais. Autre exemple, celui du frelon asiatique.
Alors c'est un autre exemple récent qui date à peu près de la même époque. Hein. La première découverte, c'est en 2004, en Lot-et-Garonne, dans la région de Tonneins. L'histoire est un peu différente, puisque cette fois, c'est une introduction accidentelle, qui est maintenant connue. On a élucidé le mystère assez récemment. On se doutait de ce qui s'était passé, mais maintenant, on a même trouvé le pépiniériste qui, involontairement, a causé l'arrivée de ce frelon asiatique. Alors on sait que les femelles fondatrices de frelons, les reines, hein, au tout début, au printemps, quand elles s'installent, elles font un petit nid, hein, un nid primaire, ce qu'on appelle, hein, qui n'est pas très grand, qui peut faire jusqu'à 10 cm de diamètre. Mais ce nid, il peut être caché alors en l'occurrence, c'était probablement une poterie. Il a été caché dans une poterie qui a été importée de la Chine vers la France. Et malheureusement, c'est une femelle fondatrice, donc elle a fait un nid, puis un gros nid, et les frelons sont arrivés comme ça.
Avec ces deux exemples de la coccinelle et du frelon, est-ce qu'on peut dire que c'est une illustration d'une sorte de migration involontaire d'insectes ?
Oui, alors ça relance la grande difficulté de définir la migration. J'ai participé uniquement aux deux premières réunions là, de la très belle exposition qu'il y a à Bordeaux sur les migrations du vivant, hein, une partie qui concerne les animaux et une autre qui concerne
les végétaux.
Les végétaux au jardin botanique. Et une des questions qui s'était posée, et qui est peut-être la plus difficile en fait, c'est à quel moment parle-t-on de migration ? Parce que une migration, dans l'imaginaire collectif, il y a l'idée d'un aller-retour. C'est souvent la migration, je dirais, mode hirondelle ou grue. Hein, avec
et d'une longue distance aussi. Hein.
Et longue distance. Et tout déplacement ne serait donc pas une migration. Par contre, il y a aussi des migrations qui vont dans un seul sens, hein, des migrations sans retour, des déplacements comme ça, naturels ou accélérés par l'homme de populations ou d'espèces. Et donc, on peut considérer qu'effectivement, le frelon asiatique comme la coccinelle asiatique ont migré. Ils ont migré grâce à l'homme.
Est-ce qu'un puceron qui change de plante ou une abeille qui change de fleur fait une sorte de migration ou pas ?
Alors, au sens propre du terme, il se déplace. Ouais. On pour moi, c'est un peu la limite, parce que nous sommes des animaux, hein, étymologiquement, on se déplace. Donc, le moindre déplacement, à ce moment-là, on serait tous migrateurs, sauf les animaux fixés qui ne sont pas très nombreux. Mmh. Non, il y a quand même l'idée d'un certain déplacement, de changer de biotope, par exemple, hein, de changer de milieu de vie. Quand on se déplace sur la même plante, on ne peut pas parler de migration. Mais lorsqu'on va quitter un endroit pour aller à un autre endroit, il y a une raison à chaque fois, et cette raison-là peut justifier l'usage du vocable migration.
Hervé Thomas, est-ce qu'il y a beaucoup de pertes lors de ces migrations d'insectes ?
Alors, c'est une question intéressante que je vous remercie de me poser, parce qu'en fait, on ne peut pas les quantifier. Il y a absolument, à ma connaissance, on n'a aucune quantification de ça, mais elles sont colossales, parce qu'on les voit. On parlait tout à l'heure des monarques. Sur le trajet de descente des monarques du nord vers le sud...
Là, c'est des millions d'individus.
Oui, hein. C'est des millions d'individus que l'on trouve disséminés sur tout le trajet. Bon, ce sont des animaux qui ont des prédateurs, ce sont des animaux qui vont rencontrer des... Si, par exemple, il y a des intempéries, s'il y a des tempêtes, s'il y a quelque chose qui les freine, ben il va y avoir des hécatombes. Mais il y a quelque chose d'important à dire là-dessus, c'est que ça fait partie de la vie normale des insectes. Alors les insectes, en fait, ont une capacité de reproduction telle que l'individu n'a entre guillemets, aucune importance. Donc, vous savez, c'est un peu l'image de... On parle souvent de ça, les pontes des tortues, où vous allez avoir beaucoup d'œufs parce qu'il y en a une sur 10 000... Et beaucoup de pertes, il y en a une sur 10 000 qui permettra de renouveler les générations. Ben, les insectes, on a ça, mais au centuple. Hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup de mortalité, mais ils pondent tellement, il y a tellement de capacités de reproduction que ça n'est pas gênant.
Et la vocation de ces migrations, alors qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher de la nourriture? On va chercher un partenaire justement pour se reproduire?
Eh ben, c'est à peu près ça, parce que sans être caricatural, c'est amusant parce que c'est assez universel. Hein, et vivre, c'est dans le règne animal, c'est essentiellement manger et se reproduire. Mmh. C'est les deux grandes fonctions. Et quand je dis se reproduire, donc c'est ça effectivement, lorsque les ressources alimentaires ne sont pas suffisante. Hein. Là, c'est le modèle, je reprends le modèle hirondelle, il n'y a plus assez pour un insectivore d'insectes à manger pendant la basse saison, la saison froide. Il faut bien aller ailleurs, là où il y aura encore des ressources alimentaires. Et il y a beaucoup d'insectes qui font ça, tout simplement pour manger, pour pouvoir manger à un moment où il y a moins de nourriture. Plus que le froid, d'ailleurs. Hein. C'est plutôt le manque de nourriture qui va être le facteur important. Et la reproduction, c'est la même chose, mais finalement, la reproduction, ça revient aussi à l'alimentation, parce que c'est très souvent pour donner des chances de s'alimenter à la génération suivante, qui ne peut pas rester au même endroit.
Mais Hervé Thomas, vous disiez quand même tout à l'heure qu'il y avait une raison qui était liée aux températures, c'est-à-dire qu'effectivement, ces insectes sont dépendants de la température extérieure.
Oui.
Donc, ils vont chercher la chaleur.
Alors là, il faut revenir peut-être sur quelque chose d'important. Les insectes ont aussi... Alors c'est aussi quelque chose qui fait que c'est difficile d'appréhender ces phénomènes migratoires chez les insectes et qui est très différent des vertébrés. Les insectes, ils ont en gros... Leur cycle de vie se fait en deux grandes phases. Il y a une phase larvaire dans laquelle ils ne sont pas ailés. Les insectes adultes se reconnaissent au fait qu'ils ont des ailes dans la plupart des cas. Les insectes qui sont des larves, qu'ils ressemblent ou pas aux adultes, parce que certaines larves ressemblent beaucoup aux adultes sans les ailes et d'autres sont très très différentes. Je prends les deux exemples les plus connus. Vous avez les larves de papillons sont des chenilles, ça ne ressemble pas spécialement aux papillons. Et les larves de criquets, par exemple, ou de sauterelles, ressemblent déjà beaucoup à des sauterelles adultes. Mais il n'y a pas les ailes. Donc en gros, la larve, elle est là pour manger un maximum, pour emmagasiner le maximum d'énergie. Elles vont déterminer par leur alimentation la taille et la vigueur future de l'adulte. Et l'adulte, lui, en étant à peine caricatural, son seul rôle, c'est de se déplacer, de se reproduire et renouveler les générations. Parfois même, ils ne mangent pas du tout. On a des tas d'exemples de papillons, ça peut surprendre, qui n'ont même pas un tube digestif complet. C'est-à-dire que le papillon adulte, il va se reproduire le plus vite possible. Et donc, ils sont très mobiles. Ouais. Et c'est donc les adultes qui migrent.
Vous parliez des criquets il y a un instant. Hervé Thomas, on va évoquer ces insectes migrateurs qui peuvent aussi être responsables de très gros dégâts. Et puis, vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur la page de la Terre au Carré sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
Pendant près de trois quarts d'heure, sans interruption, un gigantesque nuage de criquets de 15 km de long traverse la route nationale 7, célèbre route touristique du sud de Madagascar. Après l'invasion de criquets dans les pays du Sahel en 2003, c'est tout le sud-ouest malgache qui est contaminé. Selon les experts, il y a actuellement une centaine d'essaims à Madagascar, ce qui représente 500 milliards de criquets qui peuvent consommer 100 000 tonnes de végétation verte par jour. Ici, ils viennent de manger les feuilles de ces cannes à sucre.
En une journée, on a compté 5 essaims sur un trajet de 20 km.
Une vidéo de l'AFP en mai 2013, mais des actualités plus récentes d'ailleurs autour de ces criquets, on en entend souvent parler, qui ravagent de nombreuses régions. Hervé Thomas, pour nous parler des migrations d'insectes. Alors c'est vrai que certaines espèces migratrices ont très mauvaise réputation, à l'instar donc des criquets pèlerins, c'est ça, c'est l'espèce exacte?
Alors il y a plusieurs espèces de criquets qui peuvent faire ce genre de choses, mais la pire de toutes, enfin la plus redoutée, c'est effectivement le criquet pèlerin. C'est le plus connu.
C'est le plus ancien aussi. Hein.
C'est le plus ancien. Celui qui est dans la plaie d'Égypte, hein, c'est lui. Hein, c'est
les sauterelles de...
Voilà, les sauterelles qui sont des criquets, en fait, et c'est lui. Hein, c'est probablement lui. Hein. Il vit dans cette région-là. Il est dans une très très grande partie de... pratiquement tout le nord de l'Afrique, enfin au nord de l'équateur de l'Afrique et une partie de l'Asie. Il a une très grande aire d'extension. Il est rarement, heureusement, il n'est pas tout le temps dans cette forme grégaire qui pose problème. Hein. La plupart du temps, il est dans une forme très discrète, on ne le remarque pas, bien intégré dans l'écosystème. Mais de temps en temps, il y a ce dérapage, entre guillemets.
Qu'est-ce qui fait que ça...
Alors, c'est assez amusant, on pourrait faire des parallèles aussi avec l'histoire des lemmings qui vont se suicider en masse en Scandinavie de temps en temps. En fait, c'est connu depuis longtemps, mais c'est élucidé depuis assez peu de temps. On a pu constater dans les régions où ça arrive, alors c'est un phénomène qui arrive de temps en temps, tous les 10-15 ans, tous les 15 ans à peu près, il y a une recrudescence, et on vient de vivre une très très grosse invasion là, en 2020, qui était une des plus importantes de ces dernières décennies. Alors ce qui se passe en fait, c'est que ces criquets-là, les locustes en général, ce qu'on appelle les locustes, sont des criquets qui ont une particularité qui est longtemps restée mystérieuse, qui l'est encore en partie, qui est qu'ils alternent des phases solitaires, où le criquet se comporte comme un criquet qu'on a chez nous, hein, et puis des phases grégaires où ils se mettent à changer d'apparence, changer de comportement.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Ben, sans doute, probablement, ce sont quand même des animaux qui vivent dans des régions assez arides. Hein. C'est l'aire d'origine de ces criquets, c'est des zones semi-arides ou très arides. Et ils doivent être capables de profiter des ressources alimentaires, quand on revient donc à l'alimentation, dès qu'elles arrivent. Il ne pleut pas tout le temps. Et en fait, dès que les conditions deviennent favorables, ces insectes, immédiatement, vont avoir tendance à investir l'endroit qui est favorable et se reproduire. Et lorsque certaines années, lorsqu'il y a des conditions bien particulières, avec beaucoup, notamment beaucoup d'eau, dans ces zones semi-arides, mais très très arrosées. Mmh. Donc on a une sorte de verdissement du désert temporaire. Et ça va déclencher un nombre plus important de reproduction, une reproduction accélérée, qui fait que la densité des criquets va se trouver augmentée. Et on a constaté que c'est cette densité qui augmente, lorsqu'elle est au-delà de, je crois, de mémoire 500 individus par hectare, va déclencher la phase grégaire. La phase grégaire est donc déclenchée par ce processus.
Et là, on va avoir des milliards d'individus.
Là, ça devient colossal. Hein. Les chiffres dépassent l'entendement. On va dire que par kilomètre carré de surface, vous pouvez avoir 80 millions de criquets. Ils vont consommer, vous l'avez dit dans le reportage tout à l'heure, ils vont consommer des tonnes de nourriture. Ils ravagent tout sur leur passage parce que c'est une espèce qui en plus est polyphage. Enfin, il est phytophage, il mange des plantes, mais n'importe quelle plante. Ouais. Donc partout où il passe. Et alors les larves, elles, pour le coup, sont également voraces. Elles vont devenir grégaires aussi. Donc ça crée des sortes de bandes larvaires qui marchent au sol en mangeant tout ce qui est au sol. Et en même temps, les adultes, qui sont ailés, qui peuvent aller beaucoup plus loin sur des centaines de kilomètres, vont absolument tout ravager.
Donc effet considérable aussi sur la sécurité alimentaire, hein, dans les pays qui sont traversés par ces criquets, et des coûts évidemment très lourds pour les populations humaines, hein, qui sont envahies.
Et d'autant plus qu'on s'en débarrasse souvent à grands coups de pesticides, ce qui n'est pas forcément non plus une bonne chose, puisqu'après on retrouve ça dans les chaînes alimentaires.
Est-ce que des insectes comme les fourmis sont capables de longues migrations ou pas?
À part les déplacements fortuits, hein, on a des espèces qui arrivent par exemple d'un continent à un autre. Récemment, dans la région de Montpellier, on a une fourmi qui vient de débarquer et qui n'était pas originaire d'Europe. Donc ça, c'est toujours le phénomène dont on a parlé tout à l'heure, hein, des introductions un petit peu accidentelles. Après, il y a des fourmis nomades. Hein. Alors là encore, on revient à l'histoire de la définition, à partir de quand un nomade est un migrateur. Hein. Mmh. Souvent, le mot nomade, on l'a utilisé pour l'homme, pour ne pas dire migrateur, parce que le nomade est un peu un migrateur lui-même. On a des fourmis qui font ça. Les plus connus, c'est les colonies de fourmis légionnaires, par exemple, en Amérique du Sud, hein, qui font des grandes colonnes, mais qui ne sont pas installées en endroit donné, qui se déplacent. Donc, on peut parler de migration.
Quelles sont les vertus de ces migrations, alors, Hervé Thomas? Parce qu'on parlait de pollinisation tout à l'heure, c'est un des rôles intéressants aussi.
Et oui, en fait, la grande vertu de ces migrations, et ce qui fait qu'il ne faut pas les regarder regarder systématiquement un petit peu comme, comme quelque chose de négatif ou de dangereux ou d'un défi à l'homme, c'est avant tout des flux de matière extrêmement importants. Dans l'image populaire, la migration des oiseaux, c'est quelque chose de sympathique, c'est quelque chose qu'on a envie de voir se poursuivre. Mais les oiseaux ont besoin des insectes. Les oiseaux, je l'ai dit tout à l'heure, sont des gros mangeurs. Et tout ça, ça marche ensemble. Les insectes pollinisent. Et donc ces flux de matière qui sont mal connus en termes de migration, ils sont probablement, c'est même certainement indispensable à la santé des écosystèmes.
D'où l'importance de protéger aussi les insectes par les pratiques, évidemment. Et d'ailleurs, on va passer aux questions des auditeurs et des auditrices parce qu'il y a des questions sur ces sujets. On a d'abord ce message de Franck qui a une miellerie à Tire-d'Aile en Ardèche. Il nous dit qu'il voit beaucoup d'années, chaque année, des sphinx à tête de mort tourner autour de ses ruches à partir du printemps. Après avoir traversé la Méditerranée, c'est un spectacle fascinant. Mais, justement, on demande Franck, comment est-ce possible que ces sphinx à tête de mort traversent la Méditerranée ?
Alors, les sphinx tête de mort sont bien connus, d'abord parce qu'ils ont cette fameuse tête de mort. Donc, autrefois, c'était le mauvais présage. Quand ils entraient dans une maison, ça signifiait la mort de quelqu'un de la maison. Alors, c'est le deuxième plus gros papillon de France. Il est énorme, le plus lourd. Donc, il est bien connu aussi pour ça. Et ce sont des sphinx. Alors, les sphinx, ce sont de très puissants voiliers qui sont capables de vraies prouesses, j'allais dire dignes de celles des oiseaux en termes de déplacement sur beaucoup de kilomètres. Donc, eux, ils vont effectivement migrer d'Afrique du Nord jusqu'à en toute la France, y compris d'ailleurs plus au nord, au Royaume-Uni, etc. Et ce sont des papillons qui vont se développer chez nous sur les solanacées, les pommes de terre, les plantes de la famille des pommes de terre. Donc ils sont capables de faire ces très très gros déplacements. Oui.
Une question de Thierry d'actualité, une autorisation de remise sur le marché de biocides puissants, de néonicotinoïdes en particulier, est en passe d'être actée au prétexte que les autres pays européens l'utiliseraient. Ne serait-il pas plus simple que Bruxelles les interdise sur toute l'Europe avant qu'il n'y ait plus d'insectes qui vivent justement dans nos campagnes? Qu'est-ce que vous répondez à Thierry?
Eh ben, je réponds que c'est dramatique, mais c'est un peu il y a l'histoire du monde d'avant et le monde d'après, et on ne médite pas les erreurs du passé, c'est un non-sens total. Pour un naturaliste, quel qu'il soit, que ce soit un entomologiste ou un ornithologue, c'est la même question. L'usage de ces produits, d'abord ça ne sert à rien parce qu'on n'éradique pas un insecte. On a parlé tout à l'heure du frelon asiatique. Bon, toutes les idées qui consistaient à essayer d'éradiquer ce genre de bêtes montrent qu'on ne connaît pas le fonctionnement d'un insecte. Un insecte, quand il s'installe. Et c'est pas avec ça qu'on arrivera à s'en débarrasser. En plus, il y a des formes de résistance ensuite qui sont acquises vis-à-vis des molécules qu'on utilise, et on empoisonne toute la chaîne alimentaire. Le problème des abeilles, puisqu'on parle de ça, c'est beaucoup plus les néonicotinoïdes que le frelon asiatique. Le frelon asiatique, évidemment, n'arrange rien, parce qu'il va s'attaquer à des colonies qui sont déjà affaiblies, mais d'une certaine manière, il arrange probablement certaines personnes, parce que quand on parle du frelon asiatique, il a bon dos, on évite de parler du vrai sujet qui est effectivement ces néonicotinoïdes.
Qu'est-ce que vous répondez aux producteurs de betteraves, par exemple, qui réclament le retour de ces insecticides?
Que c'est pas une solution, parce que c'est une solution à court terme, qui va permettre, sur le moment peut-être, d'avoir l'illusion qu'on résout le problème, mais à long terme, ça ne fonctionnera pas. Ça n'est pas une solution, pour parler d'un mot à la mode, durable. L'accumulation de produits toxiques dans les écosystèmes ne peut pas être quelque chose de gagnant.
Agnès demande, est-ce que les insectes migrent en raison du changement climatique, de la pollution ou de la bétonisation? Est-ce qu'il y a des déplacements de populations d'insectes à cause de ça?
Oui, il y a tout ça. Il y a tout ça et il y a d'autres choses. Le réchauffement climatique, alors, il faut être toujours très prudent, parce que quand quelque chose vient juste de se produire, on a toujours tendance à dire, maintenant, c'est le réchauffement climatique. Mais c'est vrai que statistiquement, on voit plus d'insectes, par exemple, dans nos pays, en France, par exemple, on voit plus d'insectes qui se déplacent d'année en année du sud vers le nord que l'inverse. Donc, on peut avoir tendance à dire raisonnablement qu'effectivement le réchauffement climatique influence le fait que chaque année on trouve des espèces. Alors nous qui les étudions par exemple dans le cadre d'inventaire à la Société Linnéenne de Bordeaux, ou dans le cadre de travaux que je fais pour l'ONF sur les plages, où je suis année après année des insectes indicateurs, je constate effectivement ce genre de phénomène, d'espèces méditerranéennes par exemple, qu'on retrouve de plus en plus fréquemment chez nous.
Deux questions très rapidement pour les réponses. Gilles demande combien de temps reste-t-il avant que les papillons monarques ne soient complètement disparus, puisqu'on disait qu'il y a vraiment des chutes de population très importantes.
Alors, les insectes, il y a beaucoup de résilience chez les insectes. Si on fait attention vite, les choses peuvent très vite... du moment que l'espèce n'a pas disparu, quand il reste suffisamment d'individus, la situation est réversible. Il faut juste veiller à ne pas faire disparaître l'espèce. Donc, on peut être optimiste si on prend des mesures immédiatement.
Et puis Aline demande, quelle est la durée totale du cycle du papillon monarque
? En fait, ça dépend du moment où il est né. Puisque s'il est né, s'il est né au Mexique, la durée totale du cycle va être de 2 mois, 3 mois, alors que s'il est né dans le nord des États-Unis ou au Canada, il va vivre plutôt 7-8 mois.
Merci beaucoup Hervé Thomas. Je rappelle donc cette exposition au Muséum de Bordeaux, Les migrations du vivant, c'est jusqu'en novembre prochain. Merci à Jean-Philippe Verret qui a préparé ce dossier. Et puis je renvoie sur la prochaine émission consacrée aux migrations autour des migrations de végétaux. Ce sera le 26 février dans la Terre au Carré. Bon retour à Bordeaux.
Merci beaucoup, j'ai migré.